Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonances, votre émission mensuelle de poésie. Aujourd'hui, mon invitée est Laura Tirandaz. Laura, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue au micro de cette émission. Je suis heureuse que vous soyez avec moi ce soir car, à vous toute seule, vous avez plusieurs voix à faire entendre dont les auditeurs vont pouvoir profiter. Pour vous présenter, je dirais que vous êtes née en 1982. Votre père est iranien, il s'est exilé en France et vous avez donc une double culture. Après une formation de comédienne au Conservatoire de Grenoble, vous avez fondé votre propre compagnie de théâtre, une compagnie nommée Variation. Vous avez également suivi une formation d'autrice dramatique à l'ENSAT de Lyon, soit École nationale supérieure des arts et techniques de théâtre. Une école où j'ai eu la chance de faire quelques interventions, quelques incursions, et je l'ai trouvé vraiment formidable. En plus de ces textes pour le théâtre, Laura, vous écrivez de la poésie, vous avez produit des enregistrements radiophoniques de vos textes, vous réalisez également des documentaires pour France Culture et la RTBF, et puis dernièrement, vous êtes éditrice pour le compte des éditions Ancrage & Co. Vous dirigez la collection Poésie traduite qui a pour titre Parallèle, c'est ça, Parallèle. Et ce depuis 2023, avec un premier titre sorti en juin 2024, un premier livre de la poétesse Jennifer Foster, qui a la particularité d'être membre de la nation Creek. Elle est donc amérindienne. Laura, on l'a compris, vous portez multiples casquettes. Comment s'organise-t-on? Comment fait-on pour être efficace sur tous les fronts?
J'ai pas forcément le sentiment d'être très efficace. Alors j'allais dire malheureusement, en même temps je me méfie de la question de l'efficacité, parce que je suis pas sûre qu'en art elle aide tant que ça. Et que j'ai l'impression que c'est quand on va vers des zones où précisément on défait ce qu'on sait faire ou ce qu'on croit savoir faire, on se découvre d'autres, d'autres fils, d'autres couleurs, que parfois quelque chose peut naître de plus intéressant, donc artistiquement. Après, les multiples casquettes et tout, ça a été vraiment des questions de rencontres et de désirs qui naissaient à certains moments et qui me permettaient de m'ancrer un peu plus dans un amour de la littérature. En tout cas, de faire que cet amour de la littérature-là, des littératures, je devrais dire, a pu passer par la radio. D'abord par le théâtre, qui a été peut-être une ouverture au monde, même à un moment, au moment de l'adolescence. Et après le théâtre, donc effectivement la poésie, la radio aussi, mais pour moi la radio, elle est liée à la poésie. La question des audio-poèmes que j'ai pu réaliser, pour moi, c'était vraiment évidemment de faire entendre, déjà d'entendre pour moi-même, de sortir la poésie de mon seul crâne, on va dire, de ma seule voix intérieure, en fait. Ou d'entendre peut-être ma voix, nos voix, et d'autres voix, dans d'autres langages aussi, dans d'autres langues plutôt.
Parlons, si vous le voulez bien, de votre héritage iranien. Dans quelle mesure vous met-il en porte-à-faux avec la culture occidentale? Et en avez-vous tiré une sensibilité différente?
C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a évidemment un milliard de manières de vivre un héritage, de vivre, de le contredire, de s'en inquiéter, de le porter. Parfois, ça peut être effectivement lourd. Ce qui est compliqué, c'est que dans ma famille, l'exil a été très douloureux et la plupart des membres de ma famille ne sont jamais retournés en Iran. Et en fait, je suis la seule à y être retournée. J'y tenais. Bon, évidemment, les questions politiques de l'Iran actuel, mais même de l'Iran il y a 10 ans, hein, sont très complexes et ont expliqué aussi ça. C'était pas uniquement... Tout n'est pas fait que de choix dans nos vies. Hein. On fait comme on peut avec ce monde-ci. Ces gouvernements-ci. C'est vraiment l'expérience de la diaspora qui est aussi intéressante. Hein. C'est-à-dire que j'ai des cousins qui peuvent habiter à Dallas, donc aux États-Unis, certains en Afrique, au Congo, donc qui sont iraniens, qui se sont installés là-bas, certains en France, donc dont mon père, Ardeshir Tirandaz. Il y a une manière dont cette culture-là en rencontre une autre et se mélange, se rencontre. Là, je le rationalise, mais ce n'était pas du tout rationnel. Hein. Je l'analyse après coup. Je pense que j'avais vraiment le souci de me dire, mais je ne peux pas aller dans ce pays. On ne peut plus y aller, on ne peut plus y retourner. Les choses se sont coupées d'une certaine manière. On verra jusqu'à quand, comment est-ce qu'on peut... Voilà. Sachant que ma grand-mère y habite encore, la mère de mon père. Mais qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste possiblement la langue, la cuisine, pour ceux qui croient en Dieu, la religion. Et donc moi, ça a été la langue, évidemment, et ça a été ce désir de m'en approcher, de tenter de la saisir au mieux, en ne pouvant pas trop, à part une seule fois dans ma vie pour l'instant, aller en Iran, donc être baignée dans un pays où cette langue-là est la langue de la rue, est la langue de tout le monde. Et du coup, ça a été une manière de chercher au travers de la littérature et évidemment de la poésie, parce qu'il y a un véritable, pour le coup, héritage de la poésie persane classique, notamment. Voilà, de m'en approcher, de chercher au travers de cette littérature à rencontrer un pays autant que possible. C'est toujours un pays fantasmé, c'est le pays perdu, ça peut être le paradis perdu aussi. Mais en tout cas, de recréer quelque chose à partir de la langue et notamment de la traduction. Ça a été pour moi essentiel, en fait.
Vous êtes donc la deuxième génération. Est-ce que c'est vous qui portez le plus le poids de l'exil ou ce sont vos parents ?
C'est très compliqué. Il y a ce qu'on dit et il y a beaucoup de déni. Hein. Puis évidemment, toutes les familles portent leurs secrets. Donc quand vous ajoutez un exil à ça, quand vous ajoutez deux langues, c'est très compliqué. Mon père me parlait peu persan quand j'étais petite, donc je ne suis pas bilingue. Et ça a été une quête de me rapprocher de cette langue au mieux. Et d'apprendre l'écriture aussi. J'ai vu mon arrière-grand-mère, qui était en France aussi, qui est morte, et dans les derniers temps de sa vie, comment le persan avait repris, c'est pas le pouvoir, mais en fait était revenu par rapport au français. Et j'avais cette inquiétude-là de me dire, mais quand mon grand-père, quand mon père atteindront un certain âge, le français sera plus loin que le persan. Et comment moi, je pourrais parler avec eux ? Donc il y avait quand même, pour être très honnête, aussi cette chose-là, pas que de la poésie ou... de me dire, mais il faut que je les comprenne un moment, autant que possible. On connaît tous hein, ces ambiances d'hôpitaux gériatriques en France. Il y avait quand même cette chose-là d'une inquiétude de ce que j'aurais à vivre dans quelques années. Ça fait avancer hein, aussi par l'inquiétude. C'est pas que négatif, hein, par inquiétude, on peut aussi se mettre à se lancer dans quelque chose, accélérer un désir un peu plus diffus en soi. En tout cas, le fait de la traduction, ça a été vraiment un endroit que j'ai extrêmement voulu. Et alors, la traduction, je devrais le dire autrement, je devrais dire traduire Furur Farorzad. Parce que je ne m'estime pas comme traductrice au sens professionnel du terme. Je ne me vois pas traduire X poètes tout le long de ma vie. Et évidemment, traduire avec mon père aussi, puisque n'étant pas bilingue, je souhaitais être aussi rassurée. Le persan est sa langue maternelle. Ce qui est très curieux... comme exercice, en fait, d'être avec son père où il se connecte, je n'aime pas ce mot, mais en tout cas où il se met en lien avec quelque chose de sa langue maternelle qui n'est pas la mienne. Donc chacun depuis une rive, ça c'est très étonnant, à chercher avec un poème au milieu, qui n'est pas un de mes poèmes, donc qui me décale, ce qui m'allait très bien, à chercher comment faire passer un poème d'une rive à une autre, au mieux.
Pour ce qui est de la poésie, qu'est-ce que cet éclairage iranien orientale apporte au paysage français, à votre avis ?
Alors, je ne saurais pas dire en général ce qu'il apporte. Après, ce qui a pu, moi, me saisir, c'est que dans ma famille, on n'est pas avec des gens qui sont précisément des personnes, on va dire, soucieuses de la littérature dans l'absolu. Ce n'est pas ni leur métier, ils venaient pas du tout de là. Mais il y a quand même une connaissance de la culture traditionnelle, et notamment de la poésie traditionnelle, de Hafez, de Khayyam et Parker. Et je me souviens d'une scène, parce que mon père a habité en Guyane pendant un temps, je me souviens d'une scène où on était dans une voiture avec mon père, on passe devant quelque chose qui brûlait dans un... Enfin, qui brûlait, c'était pas du tout tragique, dit comme ça. Mais voilà, un petit feu de jardin, on va dire, dans une villa à côté, ou je sais pas quoi. On passe devant, et mon père regarde le feu et dit un poème en persan. Sur le feu qui se dit « Atoche ». Et c'est un extrait de Hafez. Et en fait, dit comme ça, ça a l'air extrêmement... oh là là, mon Dieu, quel moment grandiloquent. C'était pas du tout grandiloquent, c'est-à-dire qu'on regarde le feu. Ah ! Donc, il y a quelque chose de cette proximité... quasi quotidienne, enfin, que je trouve très beau. En France, c'est absolument pas le même contexte. Ça a pu peut-être l'être à un autre moment, peut-être sur le rapport à la poésie, je sais pas.
Je vais lire deux vers. J'ai été poussée dans la vie par la famille sanglante des fleurs. La famille sanglante des fleurs, vous entendez ? Alors là, il s'agit des mots d'une poétesse iranienne que je vous laisse nous présenter, Laura.
Donc là, il s'agit d'un vers, d'une fin de poème que je trouve magnifique, évidemment, de Furur Farorzad, donc la poète que nous avons traduit avec mon père. La traduction, ça a été au début, mais c'était pas tout de suite pour le donner, c'était pour me le donner un peu à moi-même aussi. Et elle, j'en avais entendu parler il y a quelques années, d'abord par La Maison est noire, qui est un film qui a beaucoup marqué les esprits, très beau film sur une léproserie en Iran. Et en fait, c'est un film où il y a des images, du quotidien des lépreux. Et sur ces images-là, elle dit un poème. Donc vous avez des corps rongés, c'est par la lèpre, voilà. Des paupières qui tombent, des femmes qui se mettent du kohl comme ça, des miroirs, un mariage, voilà. Et vous avez son poème à elle qu'elle dit elle-même. C'est vraiment un très beau film. Chris Marker en avait parlé. C'est un film qui a eu, je crois, un prix en Allemagne, donc qui a été, on va dire, regardé aussi en Occident. Et elle a écrit quelques recueils. Elle est morte très jeune, à 32 ans, dans un accident de voiture à Téhéran. Et elle a eu le temps d'écrire 4-5 recueils. Sa vie a été très compliquée. Elle s'est mariée tôt, elle était amoureuse de son mari, qui s'appelait Parviz. Elle s'est mariée jeune, elle a eu un enfant jeune, et puis elle a écrit de la poésie. Et elle a écrit des choses qui n'étaient pas forcément acceptables qu'une femme dise, des espaces intimes, sensuels. Elle a eu aussi des aventures extra-conjugales, ce qui n'était pas non plus totalement accepté, hein, du tout. Donc elle a divorcé avec son mari et la garde de son fils lui a été retirée. Elle lui a été retirée par la famille notamment de son mari qui a élevé son enfant. Donc elle ne l'a quasiment pas revue jusqu'à sa mort. Et elle s'est jetée, on va dire, à corps perdu dans ce désir de poésie. Avec toujours, et ça m'a beaucoup touchée, mais cette inquiétude de ne pas arriver à ce qu'elle souhaitait. Quelqu'un d'une grande exigence et qui se souciait évidemment énormément du rythme, qui se souciait toujours de l'œuvre qu'elle était en train de faire, qui était complètement happée par cette œuvre-là, qui s'inquiétait de ne pas avoir été assez, c'est pas le mot formée, mais en tout cas assez mise en contact avec d'autres artistes. Évidemment, le fait d'être une femme était, on va dire, catastrophique. Elle a été beaucoup moquée, en fait, de son vivant, parce qu'on la prenait un peu pour une mondaine, qui avait des amants. Et c'était pas tant, d'ailleurs, le fait d'avoir des amants, c'était le fait de ne pas s'en cacher. De ne pas estimer qu'il fallait garder une façade d'une certaine forme de moralité. On parle de l'Iran du chat, du dernier chat d'Iran, je devrais le repréciser. Elle parle beaucoup de ses aventures amoureuses, notamment douloureuses, et de son désir d'une union avec un homme, avec un compagnon. Et ce que je trouve très beau dans ses poèmes, c'est qu'elle explore plein de formes différentes. Ce sont des poèmes qu'on pourrait qualifier de très lyriques. Et d'ailleurs, cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est « Croyons à l'aube de la saison froide », c'est dans ce recueil-là, qui est son dernier recueil, inachevé, puisqu'elle est morte dans cet accident de voiture. Elle a été beaucoup moquée, en fait, elle a eu des périodes très dures, hein, psychiquement. Et une autre naissance a été son recueil qui lui a permis d'avoir un peu plus une autre forme d'aura et que même ses détracteurs ont commencé à se dire que c'était peut-être pas rien, que c'était une artiste, que c'était une poète à entendre, à faire entendre.
On peut peut-être entendre des extraits de ces recueils.
Le premier poème que nous avons traduit ensemble de Furur Farorzad, c'est « Je saluerai encore le soleil », un poème qui m'avait bouleversé comme ce genre de poème, un manifeste d'une existence, qui se projette dans ce qui va arriver et ce qu'elle espère qu'il arrivera.
Nous allons donc écouter « Je saluerai encore le soleil », un audio-poème réalisé par Laura Tirandaz, un poème de Furur Farorzad, traduit par Laura Tirandaz et son père, Ardeshir Tirandaz, que vous entendrez dire le poème en persan.
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد.
بوهای زیر خاک،
c'est
ça?
Oui.
بوهای زیر خاک qui sont très dans le profondeur, c'est ça?
Je saluerai encore le soleil, les ruisseaux qui coulaient en moi, les nuages où s'attachaient mes pensées sans fin et les heures douloureuses des peupliers.
Je saluerai encore le soleil, le ruisseau qui coulait en moi, les nuages où s'attachaient mes pensées sans fin et les sorts douloureux des peupliers du jardin qui traversaient avec moi les saisons sèches.
Je saluerai les nuées de corbeaux.
Je saluerai les nuées de corbeaux.
Les parfums
qui m'offrait le parfum des prairies nocturnes.
به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند.
On dit Noël des corbeaux? Je savais, je connaissais pas le mot.
Et ma mère qui habitait le miroir.
Et ma mère qui habitait le miroir.
Avec le visage de ma vieillesse.
Avec le visage de ma vieillesse.
به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود.
Je saluerai le sol aussi, son ventre fébrile, accueillant les grains verts de mon incessant désir.
درون منقلبش را از تخمه‌های سبز می‌انباشت.
سلامی دوباره خواهم داد.
می‌آیم با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک.
Avec mes cheveux soulevant les parfums des profondeurs.
با چشمهایم تجربه‌های غلیظ تاریکی.
Avec mes yeux, dense expérience de l'obscurité. Avec des bouquets cueillis au bois de l'autre côté du mur. Je viens. Et le seuil débordera d'amour.
و من در آستانه به آنها که دوست می‌دارند.
Et là, moi, je les saluerai. Tous les amants. La fille debout là-bas. Sur le seuil plein d'amour. Je les saluerai encore.
Salami dobare khaham dad.
Vous venez d'entendre un audio-poème réalisé par Laura Tirandaz, qui est mon invitée ce soir. Un poème de Farouk Farrokhzad, poétesse iranienne, traduite par vous, Laura, et par votre père, Ardeshir Tirandaz. Les voix des enfants sont celles des élèves avec qui vous avez travaillé à Vénissieux lors d'une résidence organisée par l'Espace Pandora de Lyon. Vous voulez ajouter quelque chose, Laura ?
Je voudrais dire, j'ai pas eu souvent de la chance, quand même. J'ai eu quelques malchances dans ma vie, des grandes malchances. Mais ça a été une des plus belles chances que j'ai eues. C'est que les magnifiques éditions Héros Limite aient publié ces deux recueils. D'abord une autre naissance, puis Croyons à l'aube de la saison froide.
Eh bien, Laura, il faut nous en lire un extrait tout de suite.
Sur la Terre. Jamais je n'ai espéré devenir une étoile dans le mirage du ciel, ou comme l'âme des élus, devenir la compagne silencieuse des anges. Je n'ai jamais été séparée de la terre, ni proche des étoiles. Je suis debout sur la terre, avec mon corps, avalant le vent et le soleil et l'eau, comme la tige d'une plante qui veut vivre. Chargée de désirs, chargée de douleurs, je suis debout sur la terre, pour que les étoiles me célèbrent, pour que la brise me caresse. Je regarde par ma fenêtre, je ne suis rien d'autre que l'écho d'un chant. Je ne suis pas éternel. Je ne cherche rien d'autre que l'écho d'un chant dans le cri d'un plaisir, plus pur que le simple silence d'un chagrin. Je ne cherche pas un nid dans un corps qui serait comme une rosée sur le lys de mon corps. Ma vie, une cabane. Sur ces parois, les traits noirs de l'amour. Des gens de passage ont laissé des souvenirs. Cœur percé de flèches, flammes renversées, poings pâles et silencieux sur les mots mêlés d'une folie. Des lèvres touchaient les miennes. Une étoile naissait dans ma nuit étendue, sur le flot des souvenirs. Pourquoi donc espérer une étoile ? Voici mon chant. Pas moins joli, pas plus aimable. Celui d'hier et d'aujourd'hui.
Merci. Merci Laura. À présent, je vais vous poser une question. Une question mille fois posée, mais évidemment il n'y a pas de réponse absolue. Donc vous allez me donner la vôtre, Laura Tirandaz. Quel est votre sentiment en tant que traductrice ? Faut-il être poète pour traduire de la poésie ?
Ce qu'il y a de sûr, c'est que jamais je n'aurais traduit de la poésie sans en avoir écrit avant. Ça, c'est évident. J'ai rencontré des traducteurs, des traductrices, par ailleurs passionnants, mais qui n'aiment que la prose. C'est un goût, la poésie. Au-delà de la question de la capacité, c'est qui a envie de s'y coller. C'est quand même un espace du langage où il y a des angles de partout, il y a de la brume de partout en même temps. On navigue un peu comme on peut là-dedans, et moi, ça me procure énormément de plaisir. C'est Luba Jurgensen, qui est une grande traductrice du russe, qui dit qu'il s'agit pour elle d'inventer le langage d'un autre. En l'occurrence, d'inventer le langage d'une autre, pour moi. Et je trouve ça très beau de se dire que c'est une manière de se déplacer la traduction, et aussi de déplacer son propre espace poétique. Évidemment que je n'écrirai jamais ce qu'écrit Four, mais... Et j'ai mis mes pas dans les siens à un moment. En tout cas dans les empreintes qu'elle avait laissées. Bon, il y a évidemment la question du rythme. Parfois, je suis très étonnée sur des choix de traduction. On se dit, mais quand même, c'est... On peut essayer autre chose. On n'est pas obligé d'être dans une fidélité très, très tenue comme ça, qui devient le pire après de la fidélité au sens extrêmement littéral. Sauf qu'un poème n'est jamais littéral, exclusivement. Peut-être c'est cette capacité ou ce désir, du coup, de traduire ce qui serpente, ce qui circule entre les mots. Et pas seulement les mots. Et cette espèce de fluide entre les mots, la couleur de ce fluide, l'odeur de ce fluide, c'est ça qui est à traduire aussi. Et je pense qu'il faut en tout cas en avoir un vrai désir de traduire de la poésie, de tenter cet exercice plus que périlleux de déplacer un poème d'une langue à une autre. Et de voir ce qu'on perd, ce qu'on retrouve. Ça, c'est cette très belle formule de Jean-Baptiste Parra qui compare la traduction. Jean-Baptiste Parra, qui est traducteur et poète, qui compare la traduction à un incendie. On ne peut pas tout sauver. Alors qu'est-ce qu'on sauve ? Effectivement, il n'y a que des choix, tout le temps. Choisir, de fait renoncer.
Merci pour ces explications, Laura. Explications dans lesquelles on perçoit la passion qui vous anime et à laquelle les auditeurs seront sensibles, j'en suis sûre. Passons, si vous le voulez bien, à votre propre travail d'écriture. Et nous allons écouter tout de suite un extrait de votre carte postale radiophonique. Il s'agit d'un enregistrement pour Arte Radio que vous avez réalisé en décembre 2015. Et nous voilà plongés en Guyane.
Ce soir, c'est la pleine lune. Et ceux qui habitent en forêt disent qu'ils ne peuvent pas dormir. La lumière est trop blanche. Les grenouilles braillent en cadence. L'averse n'est jamais bien loin. On l'entend arriver et on court chercher un abri. J'espère que tu vas bien. Que décembre se finit en douceur, tranquillement. Une pensée de Saint-Laurent du Maroni. La Guyane pendant la saison des pluies. Les réveils matinaux. Les nuits courtes. Des carrières rouges. Pas un brin d'herbe. Il pleut depuis 24 heures. Le linge, les brouettes, les oies, le marché, les voitures. Tout est trempé. J'ai eu la chance de revoir des morphos. Je t'en avais déjà parlé. Ces papillons bleus électriques, avec des paillettes, comme une paupière de carnaval. Et à chaque fois, on suspend le souffle. On attend qu'il passe. Dilibio sutite, desono deotadu,
qui s'y dit qu'en place, ni ma sa ba mi sou.
Ah, ça n'est pas une bonne émission. Milobi d'ici.
Ah bon?
Des gars, mais moi, n'était qu'une Aliliane.
Ah bon?
Merci pour Alassane Saïba.
J'ai vu Olivier. Il habite en forêt depuis 30 ans. Il marche pieds nus dans les supermarchés. Il me dit que la première fois qu'il a atterri en Guyane, les portes se sont ouvertes sur l'air d'ici, sur cette odeur de vivarium.
C'est un oiseau noir et blanc, tout petit, chanteur.
Ah, oui. Tu cherches dans les savanes.
Ben ton fameux...
Oui, mon colonel.
Ton colonel, oui. Mais il ne chante pas bien, le colonel.
C'est forêt ou abattis ou lisière de forêt. Voilà. Savane, ben comme c'est tellement défriché là-bas vers Saint-Jean maintenant, que effectivement on peut commencer à y trouver des oiseaux de savane. Là.
Oui.
Il y en a un qui siffle comme on siffle les filles dans la rue. On l'appelle le siffle au cul. Avenue Christophe Colomb. Toujours aussi longue. Beaucoup de constructions. Des promoteurs. Et comme toujours, des enfants qui vont en ville à vélo, avec une cage à oiseaux sur le guidon.
Vous venez d'entendre un extrait de « La prochaine fois tu viens », une réalisation radiophonique de Laura Tirandaz, qui est mon invitée aujourd'hui. Et alors, pourquoi la Guyane, Laura ?
Tout simplement parce que mon père y habitait, mon oncle aussi, pendant un temps, pendant de longues années même. Ça a été essentiel, cet espace, cette terre. J'avais jamais rien vu de tel. Et je me retrouvais face à tout autre chose. Et ce tout autre chose m'a donné envie non pas d'écrire, mais de me souvenir. Et ça, je trouve ça très beau de se dire que parfois, l'un des moteurs de l'écriture, c'est de se dire, ça, je ne veux pas le perdre. Tout à fait, on perd toujours. Mais quand même, on veut retenir, on veut des notes pour soi-même. Je consignais des choses que j'avais vues, que j'avais des êtres, que j'avais entendu des voix, des phrases. Et ça a été un lieu... Ça a été aussi un lieu où j'ai pris la mesure que le corps humain est très fragile face à une nature qui dépasse. J'avais 17 ans, donc je me découvrais en train de regarder comme je n'avais jamais regardé. Et j'ai gardé hein, ces petits carnets de voyage. Et je crois quand même que le désir d'écriture, il est né là. Il est né en tout cas de cette rencontre, évidemment, avec une des altérités, je devrais dire, et des présences, quelles que soient les présences, et de être témoin. C'est essentiel.
Merci. Quand même rappeler que la Guyane, c'est avec la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, des territoires dits français, et que donc il y a toute une histoire coloniale qui y est associée. Vous écoutez D'assonances en dissonance, une émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine. Mon invitée ce soir est la poète Laura Tirandaz. Et Laura, vous allez maintenant, s'il vous plaît, nous lire un extrait de votre nouvel ouvrage paru.
Le dernier ouvrage paru rassemble des pièces de théâtre que j'ai écrites ces dernières années. L'ouvrage s'appelle « Feu la nuit », du nom de l'un des textes. Il est paru dans la collection Noces, dirigée par Thierry Renard à la Rumeur Libre. C'est assez joli parce que sur la couverture, vous avez un dessin de mon père. Si je dis le mot calligraphie, il va me dire « mais non, c'est juste un dessin comme ça, c'est pas une vraie calligraphie selon l'art ». Donc un dessin d'après un poème de Hafez dont je parlais tout à l'heure et qui sont les deux vers sur le feu. Je lis juste ces deux vers-là parce que ce sont les deux vers qu'on voit écrits évidemment en persan, enfin, sur la couverture. Donc, Hafez. Le feu n'est pas ce qui fait rire une bougie. Le feu est ce qui enflamme une nuée de papillons. Donc c'est cette phrase-là qu'avait prononcée mon père en regardant le feu du jardin. Parfois, un texte est déclenché par un titre, est déclenché par une géographie. Et parfois, certaines phrases, vous sentez qu'elles restent, qu'elles hantent, qu'elles infusent plutôt, qu'elles donnent une couleur ou une saveur à d'autres textes. Feu la nuit, c'est un texte de théâtre que j'ai écrit où il y a des passages qui sont plus de l'ordre du poème. Pour moi, les frontières ne sont pas totalement, on va dire, imperméables entre les deux genres littéraires. C'est un texte qui a été marqué, entre autres, par deux endroits. Un lac artificiel à côté de chez moi. Et le deuxième espace géographique, c'est la mer Caspienne. Alors évidemment, là, il y a la question de l'exil, puisque la mer Caspienne, j'en entendais parler depuis mon enfance. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ce lac artificiel, cette étendue d'eau, on trouve à un moment des méduses. Et que peu à peu, les méduses se multiplient. On ne sait pas pourquoi. Aucun des personnages ne le sait. Mais voilà, il y a cet événement-là, cette présence-là, ces présences-là animales qui hantent l'eau. Et du coup, il y a des passages où les personnages, évidemment, parlent de ces présences-là, se demandant ce qu'elles font là, pourquoi elles sont arrivées là, pourquoi elles se multiplient, jusqu'où elles vont aller, comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va leur rester à eux, humains, de l'eau, de cet espace d'eau. C'est un passage avec un homme qui est un père, qui est le père de Victor, donc l'un des personnages, l'un des jeunes gens, qui va les voir, les méduses, non pas dans le lac, mais dans un aquarium. Donc c'est une scène qui se passe dans un aquarium. Le père est assis devant une vitre. Il regarde les méduses derrière l'aquarium. Elles soulèvent et abaissent leurs robes, leurs dentelles blanches. Elles s'élèvent, se relâchent. Tous les filaments suivent, ne s'en mêlent jamais. Les cercles dérivent, elles dansent derrière les vitres, se croisent et s'éloignent. Difficile de prévoir leur prochain mouvement. Elles dorment parfois, s'abandonnent complètement au courant chaud. Elles ignorent nos doigts sur les vitres. Nous n'existons presque plus. À quoi rêvent-elles? Peut-être qu'elles rêvent de leurs semblables dans le lac, celles qui nagent au fond de l'eau, celles qui se cachent dans l'obscurité. Le père soupire. Son regard s'attache à l'une d'elles. Son corps brille faiblement, s'absente. Elle se reprend et respire, la cloche transparente, rétractile. L'ombrelle frémit, les dessous déployés, laiteux. Le père la quitte, en suit une autre qui s'aventure vers les touffes d'algues bleues. La cloche se propulse, les filaments suivent comme un rideau qui s'entr'ouvre. Tous ces silences derrière le verre. Elles vieillissent et rajeunissent, sans fin, une peau qui retourne en enfance. On dit qu'elles sont immortelles. Elles meurent, mais une part d'elles renaît à chaque génération. Les mains du père se crispent. Elles peuvent vivre éternellement, se faner et éclore sans cesse. Les mains du père ont des taches brunes, comme celles de son père à son âge. Les mêmes mains à 30 ans d'écart. Les méduses se bercent dans leurs voiles, une longue traîne comme déchirée dans un morceau de tissu. Elles frôlent l'algue, s'en échappent lentement. L'ombrelle palpite encore, calme, menaçante. Le père ferme les yeux. Il revoit les fleurs de cimetière sur ses mains, ses taches brunes et les méduses intouchables, leur corps dans les filets quand les nageurs s'approchent. Les nageurs inspirent, gardent leurs mains fermées et repoussent la vague. Ils s'inquiètent quand l'eau se trouble. La texture des méduses, toujours fraîche et lisse, interdite. Sous les pieds des nageurs, il y a des fleurs étranges qui enfantent des méduses.
Vous êtes bien sur Radio Agora Côte d'Azur, vous écoutez D'assonances en dissonance et vous venez d'entendre mon invitée, Laura Tirandaz, lire un extrait de son dernier ouvrage, Feu la nuit, publié par les éditions La Rumeur Libre. Je vais lire quelques vers que vous avez écrits. Mes coraux, mes bancs de corail, branches des mers, prolifération subite dans le printemps. Mes coraux qui geignaient quand je soulève ma hanche et me retourne. Mes coraux qui pleuraient quand je suis en visite et qui soupiraient d'aise quand je m'enveloppe de soie. Mes coraux brisés éparpillés en des lieux par moi-même inconnus, stupéfaits quand on vous caresse, haineux quand on vous ignore. Si seulement je pouvais vous oublier parfois. Alors on passe des méduses aux coraux. J'ai trouvé ce texte intrigant, suggestif certes, mais intrigant. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que représente, quels sont donc ces coraux dont vous parlez ?
De ce que j'en sais. C'est toujours très compliqué d'expliquer un poème et je suis toujours très inquiète de lui donner le seul sens qui a été le début de l'écriture. On a cette étincelle-là, ce petit mouvement-là, et après ça dérive. Les coraux, c'est une métaphore des eaux, O-S.
Quatre autres vers. Le monde, une étoffe brûlante. Retrouver les eaux de l'hiver dans le lit de l'été. Nous marchons côte à côte, mes années liquides et moi. Donc c'est encore un peu des paroles énigmatiques que j'ai relevées et que vous écrivez dans un petit livre intitulé « Signer les souvenirs » avec des encres de Anne Slasik, un livre paru chez Ancrage & Co. Et vous y livrez des impressions, des ressentis pas toujours digérés. Il y est question d'un voyage en Équateur, il y est question de la distance, du temps d'une vie traversée avec ses empreintes d'enfance, mais aussi de l'effacement inévitable des choses vécues, sans quoi le présent n'existerait pas. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre ?
Signer les souvenirs, donc je l'ai écrit lors d'un voyage en Équateur, où j'accompagnais quelqu'un qui faisait un documentaire, qui réalisait un documentaire radio sur les roses. C'est beau le mot rose, les roses, c'est très poétique, mais c'est très lié à une économie, les roses, et notamment à une main-d'œuvre indigène. Je traduis le mot espagnol. Je suivais cette recherche autour de ce possible documentaire qui a été réalisé par la suite, et je m'étais dit, je vais essayer d'écrire un poème par jour, et j'avais un Polaroid avec moi, et je m'étais dit, je vais prendre une photo par ce Polaroid-là, pour ne pas être dans la multiplicité, au contraire, dans l'unique et dans le raté, dans ce que ça va avoir de raté, et du poème, et du Pola, et un par jour. Et à partir de toute cette matière-là, pendant, je crois que je suis restée un mois et demi, j'ai repris ces éléments-là, je leur ai donné une forme qui s'est appelée « Signer les souvenirs ». Donc ça a été édité aux éditions Ancrage Éco, et j'ai eu la chance que ce soit déjà édité dans ces éditions-là, dont je me suis occupée par la suite, et que ce soit accompagné de gravures de Hans Lassik. Il y a quelque chose effectivement du temps qui passe, des impressions sensibles qui sont toujours reliées effectivement aux altérités, encore une fois, ce qu'on regarde, ce qu'on croit voir, ce qui fait écho en soi à sa propre enfance. Qu'est-ce qu'on retient des souvenirs ? Qu'est-ce qu'on retient d'un voyage ? Quel visage on se découvre au cours d'un voyage ? Son visage, j'entends, aussi. Je vais peut-être en lire un extrait. Alors, je vais lire l'un des poèmes de Signer les souvenirs. Il me dit, si vous me donnez $2, je chante pour vos morts. La nuit était douloureuse, injuste, comme une gifle pour l'enfant étourdi. Si vous me donnez $2, je chante pour vos morts. Ne vous avancez pas. Je ne parle jamais d'eux. Encore moins je chante. Je les tiens sous mon bras au risque de les lâcher. Je n'ai jamais su les mettre à l'abri, trier les photos, signer les souvenirs. Je n'ai jamais su faire avec mes morts.
Peut-être un autre, Laura.
Sous la visière, il y aurait le mensonge des mines désertes, le craquement du ciment et la vache qui attend le couteau. Sous la visière, les peaux brûlées une à une, le nuage glissant au travers de l'arbre, un insecte saisi dans la pierre, une femme reprise chaque regard, ombre rapide, le blanc de l'œil déjà jaune. Elle se pique le doigt, elle me ressemble.
Dans ce recueil-là, moi j'en avais retenu un autre. Attendant le bus, avec la docilité du chiot tiré par l'enfant qui avance, avec la stratégie de l'insecte qui sacrifie une patte pour se sauver, je suis des jours qui passent, l'attente de quelque chose de plus grand, à la mesure de l'écho que renvoie la forêt au moteur de pirogue. Et ma première impression en lisant ce poème, je me suis dit, mais c'est comme si vous étiez submergé, vous vous sentiez dépassé, et malgré tout, dans l'attente de quelque chose de plus grand. Alors ce plus grand, l'avez-vous trouvé ?
Non, et j'espère d'une certaine manière pas le trouver, puisque c'est ça peut-être qui guide une écriture, c'est d'être toujours en recherche de... Peut-être que l'insatisfaction est l'un des plus beaux moteurs qui soit, dans le sens où c'est inépuisable. On peut être perpétuellement insatisfait de soi-même, de l'écriture, et évidemment de ce monde-ci dans lequel on est plongé, dans lequel on patauge, je crois que c'est le mot. En fait, c'est aussi très concret, certaines choses, par exemple de l'enfant qui tire un chiot. Je l'ai encore en tête, cet enfant-là qui tirait un chiot, qui ne voulait pas avancer, qui tirait, tout ça. De cet insecte-là aussi, ce sont des choses... C'est très curieux comme certaines choses ont l'air d'être des métaphores et en fait sont très littérales, et d'autres choses qui sont des métaphores peuvent être perçues comme extrêmement littérales. Ça, c'est toujours... C'est évidemment toujours intéressant, et ça fait aussi ce qui... Peut-être l'un des caractères inépuisables du poème, des poèmes.
À 10 minutes de la fin de cette émission, pour effectuer une boucle et revenir plus ou moins là où nous avions commencé, Laura, j'aimerais maintenant évoquer une lecture, concert, bilingue, qui a pour titre « Nous sommes la pluie sur le sol nu ». Cette lecture, concert, bilingue était proposée et initiée par l'Espace Pandora dans le contexte de son festival Paroles ambulantes, qui est un festival de littérature contemporaine qui favorise des passerelles avec d'autres disciplines artistiques, musique, cinéma, art plastique par exemple. Je lis l'affiche donc de cette lecture. Après l'apparition de « Une autre naissance » et de « Croyons à l'aube de la saison froide » aux éditions Héros Limite, Laura Tirandaz et Arash Sharkeshik proposent cette lecture-concert bilingue autour de ces deux recueils de poèmes de Forour Farourzad. Quelques textes écrits par Laurent Tirandaz jalonnent la lecture, présentant la vie et l'œuvre poétique et cinématographique de cette dernière. Cette lecture est accompagnée d'une création musicale originale d'Arash Sharkeshik, musicien et compositeur influencé à la fois par le jazz, le blues, l'électro et par sa double culture franco-iranienne. En mêlant poèmes, musique et voix, français et farsi, Laura Tirandaz et Arash Sharkeshik souhaitent faire entendre non seulement l'œuvre de cette poésie, mais aussi la sensualité et sa musicalité. En voici un extrait, enregistré à la Maison du Livre et du Son à Villeurbanne, le 31 mai 2024.
Sur la terre. Jamais je n'ai espéré devenir une étoile dans le mirage du ciel, ou comme l'âme des élus, devenir la compagne silencieuse des anges. Je n'ai jamais été séparée de la terre, ni proche des étoiles. Je suis debout sur la terre. Je suis debout sur la terre, avec mon corps, avalant le vent et le soleil et l'eau, comme la tige d'une plante qui veut vivre. Chargée de désir, chargée de douleur, je suis debout sur la terre, pour que les étoiles me célèbrent, pour que la brise me caresse. Je regarde par ma fenêtre Je ne suis rien d'autre que l'écho d'un chant. Je ne suis pas éternel. Je ne cherche rien d'autre que l'écho d'un chant, dans le cri d'un plaisir, plus pur que le simple silence d'un chagrin. Je ne cherche pas un nid dans un corps qui serait comme une rosée sur le lys de mon corps. Ma vie, une cabane. Sur ses parois, les traits noirs de l'amour. Des gens de passage ont laissé des souvenirs. Cœur percé de flèches, flammes renversées, poings pâles et silencieux sur les mots mêlés d'une folie. Des lèvres touchaient les miennes. Une étoile naissait dans ma nuit étendue. Sur le flot d'un souvenir. Pourquoi donc espérer une étoile ?
Vous venez d'entendre un extrait de « Nous sommes la pluie sur le sol nu », un texte de Farouk Farrokhzad, traduit par et dit par Laura Tirandaz, avec Arash Sharkeshik au chant et à la musique. C'était un concert enregistré le 31 mai 2024 à Villeurbanne. J'aimerais que vous nous parliez un peu, pas seulement du spectacle, mais peut-être de cette collaboration avec Arash, que vous connaissez depuis assez longtemps maintenant.
Oui, peut-être je devrais dire que quand même quand je traduisais avec mon père, quand on traduisait Farouk Farrokhzad, j'ai beaucoup dit les poèmes, les traductions. Je les ai quand même beaucoup dites. C'était important pour moi. Alors, je ne sais pas si cela vient du théâtre... Voilà, si cela vient de juste en dehors de la pratique théâtrale, de l'art théâtral. Mais il y avait quand même ce souci-là d'entendre, pas exclusivement sur la page. Et après, quand les deux ont été édités, je me suis dit que j'avais vraiment envie de porter cette voix. Et Arash, on se connaît depuis de nombreuses années. Moi, j'ai été au Conservatoire de Grenoble comme apprentie comédienne il y a très longtemps, et j'avais croisé Arash plusieurs fois, et évidemment, sachant qu'il était iranien et porte le même prénom que quelqu'un de ma famille, on s'était un petit peu croisés, on n'a jamais travaillé ensemble. Je l'ai re-sollicité pour cette lecture-là, pour qu'on fasse quelque chose, qu'on imagine quelque chose autour de Farouk. Nous sommes la pluie sur le sol nu, c'est un très beau titre, c'est une des phrases d'un de ses poèmes. Et voilà, il y avait ce souci de faire entendre les deux recueils et de faire aussi entendre des textes que j'ai pu écrire sur elle qui peut-être contextualisent certaines choses, qui racontent un peu sa vie ou qui racontent un peu des choses de La Maison est Noire dont j'ai parlé, de ce film sur la léproserie, en décrivant des scènes du film, en décrivant des images du film. Voilà, que j'ai pu, puisqu'on ne diffuse pas le film, mais on diffuse des extraits audio du film. Il y a peut-être cette chose-là aussi de faire entendre aussi son travail de cinéaste. Elle n'a pu faire qu'un film. Elle est morte à 32 ans, donc tout était très court. C'est curieux d'ailleurs de traduire quelqu'un qui n'a pas eu le temps de... Bon, évidemment, hein, certains poètes ont écrit de 17 à 20 ans, on le sait, mais c'est une poète que je n'ai pas connue à mon âge. Ça, c'est très étonnant, en fait. C'est-à-dire que je ne connaîtrais que sa poésie de jeunesse. Enfin, de jeunesse, on s'entend. Je veux dire, ce n'est pas du tout dépréciatif quand je dis ça, mais je ne sais pas comment elle aurait vieilli, comment son œuvre aurait vieilli, comment son regard, son ironie, sa tendresse, ses souffrances, son art du rythme, des bascules. C'est un poème à bascule à certains moments. Elle part d'une idée à une autre, elle change de paysage, elle bouscule. Ce sont des poèmes qui bousculent. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu écrire 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Bon, voilà. Et donc cette jeune poète qu'elle est restée, j'avais envie de la faire entendre aussi à un public qui ne va pas forcément tout de suite aller vers le rayon poésie des librairies. Et je me disais que passer par cette lecture musicale avec Arash, qui parle persan et qui chante en persan certains poèmes qu'il a lui-même mis en musique, qu'il a composé, voilà, des berceuses iraniennes, d'autres choses, tout un univers musical qu'il a composé à partir, et qu'il interprète sur scène avec moi, à partir de poèmes de Four. J'avais l'impression que c'était une autre main tendue, que l'édition en est une, essentielle, et que ça nous permettait, déjà moi ça me permet de reparcourir un peu de chemin autrement, à une autre place avec elle, et puis ensemble avec Arash aussi, de le porter, de faire porter cette voix que je peine à qualifier. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne peut pas qualifier, c'est peut-être ce qui nous échappe est très intéressant en fait, ce qu'on n'arrive pas à dire, elle est si, il y a du tragique, il y a de l'ironie, il y a de la méchanceté à l'égard de l'Iran de cette époque, à l'égard des élites notamment de cette époque, il y a de la douleur, il y a une errance amoureuse, mais dès que je pose quelque chose, je peux immédiatement après le contredire, ou en tout cas avoir envie de le nuancer. C'est ce qui m'intéresse dans sa poésie. Et Nous sommes la pluie sur le sol nu, notre performance, qui dure une petite heure, finit sur un texte que j'ai écrit, qui est un genre de préface pour Croyons à l'aube de la saison froide. Donc elle est morte à 32 ans. C'est un texte que j'ai écrit en 32 fragments, plus un autre fragment, un dernier quand même, pour ses 32 années de vie, où j'ai repris des éléments de sa correspondance, où j'ai repris des choses plus biographiques, on va dire, mais sans avoir envie de l'enfermer dans une biographie. On a pu l'enfermer dans une biographie, et c'est pratique de dire d'une femme qui écrit, de la réduire à son expérience, comment dire, évidemment, ô combien douloureuse du patriarcat. Il n'y a pas eu que cela, et malgré le patriarcat, elle a été une artiste. Ça, j'y tiens beaucoup. Il ne suffit pas d'éprouver pour écrire. Il y a aussi autre chose. Malgré le patriarcat, elle a écrit. Et c'est très important pour moi de rappeler que c'est une artiste au travail qui s'inquiète d'une métaphore, d'un rythme, d'une césure dans un poème. C'est quelqu'un qui explore des formes. C'est quelqu'un qui est hanté par le poème qui est toujours devant elle à écrire. Je ne voudrais pas qu'on la voie uniquement comme une femme qui a souffert et qui a témoigné de sa souffrance. Bien sûr, les poèmes sont empreints de cette souffrance, d'une souffrance d'être au monde aussi. Et d'ailleurs, elle-même le disait, elle était en distance de ça, parce qu'elle sentait que ça l'enfermait aussi dans une fiction. La femme scandaleuse qui a plein d'amants et qui... Voilà. On voit bien le genre de fiction. Et elle ne voyait pas pourquoi être une femme signifiait forcément... d'être empêchée de suivre son désir, quelle que soit la forme de ce désir-là, quel que soit le poème qu'elle a envie d'écrire, quel que soit l'homme qu'elle a envie d'aimer, les hommes qu'elle a envie d'aimer.
Eh bien, merci Laura d'avoir insisté sur ces détails, entre guillemets, détails importants, qui sont effectivement que la démarche artistique n'est pas de l'ordre du simple témoignage, il y a une transfiguration, il y a une démarche, quelque chose. Et qui fait qu'effectivement, tout le monde n'est pas ou peintre, ou danseur, ou écrivain, sous le seul prétexte qu'il ait souffert. Voilà, le temps n'est pas extensible, Laura, donc on est arrivé à la fin de cet entretien. Me reste à vous remercier chaleureusement pour le temps que vous avez consacré à bien vouloir répondre à mes questions. C'était D'assonances en dissonance, l'émission mensuelle de poésie. Je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité pour continuer notre petit périple et notre voyage dans le grand univers de la poésie contemporaine. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.